Bonsoir chez vous, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Vous écoutez votre programme interactif, Eric Manirakiza, Studio 13 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Je vous souhaite une belle soirée chez vous. Je pense que vous passez une belle soirée à l'écoute de VOA Afrique. Bien sûr, voilà, on parle de l'immigration. Le président américain Donald Trump a modifié le premier décret controversé sur l'immigration. Eh bien, le nouveau décret qui doit entrer en vigueur le 16 mars a été dévoilé ce lundi ici à Washington. Que pensez-vous de la nouvelle réforme, une réforme pas comme telle parce que la loi n'est pas encore passée sur la table de la Chambre des représentants et du Sénat. Pour l'instant, c'est un décret. Il y aura peut-être une loi dans les jours à venir. Voilà, on a Athanase Karayenga en France qui va nous aider à faciliter ce débat. Nous aurons également des auditeurs en ligne. Athanase, le décret a été modifié après une bataille judiciaire que le président américain a perdue à deux reprises. Mais certains critiques indexent toujours le président américain que le fond du problème n'est pas du tout levé. Athanase, est-ce votre impression? Vous avez lu le contenu de ce nouveau décret?
Oui, tout à fait. Le nouveau décret, c'est vrai, il assouplit les délais. Il a retiré l'Irak de la liste des pays qui sont frappés par l'ostracisme du président Trump. À ce stade, d'ailleurs, il faut signaler un paradoxe. Actuellement, les États-Unis sont en guerre contre Daesh à Mossoul, et les États-Unis sont des alliés de l'Irak dans cette guerre contre Daesh. Et c'est paradoxal d'exclure un pays qui est en même temps allié sur un front de guerre. Et puis, le troisième point, c'est qu'il faut signaler tout de même, c'est que toutes ces guerres du Moyen-Orient ont été provoquées d'une façon ou d'une autre par les États-Unis. Cette guerre la guerre d'Irak et qui a vu la chute du président Saddam Hussein a provoqué en cascade l'exclusion des sunnites du gouvernement et de l'armée, lesquels sunnites ont créé Daesh. Les États-Unis ont soutenu Bin Laden en Afghanistan et ont engagé une guerre longue, très compliquée. Et en Syrie également, les États-Unis sont engagés. Donc on voit d'une façon ou d'une autre, les États-Unis provoquer des guerres qui ont comme, malheureusement, comme chacun peut s'y attendre, qui provoquent des exodes, qui provoquent des réfugiés. Et donc les États-Unis sont responsables de ce mouvement de déstabilisation de l'ensemble de cette région. Et les États-Unis sont malvenus après de dire on refuse les réfugiés. Le quatrième point...
Mais le décret accepte quand même des réfugiés. Le nombre est limité à 50 000, contrairement à 2016 où les États-Unis ont accueilli 85 000.
Oui, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose d'accepter 50 000 réfugiés, encore que le quota, si tous les pays qui sont sollicités pour accueillir les réfugiés mettaient le quota des États-Unis, on verrait tout de suite la différence énorme qui existe entre le Liban, qui accueille des millions de réfugiés, la Jordanie qui accueille des millions, et puis l'Europe qui en accueille aussi des millions, et les États-Unis n'accueilleraient que 50 000, alors que ce sont encore une fois les États-Unis qui ont provoqué toutes ces guerres. C'est quand même quelque chose de vraiment insupportable. Et puis, il faut dire aussi que refuser les réfugiés ou refuser les migrations qui proviennent de 6 pays ou de 5 pays à majorité musulmane, c'est une forme de stigmatisation. On ne peut pas stigmatiser des pays parce que juste sont habités majoritairement par des gens qui pratiquent une certaine religion, parce que les terroristes, ils ont toutes les nationalités du monde et il n'y a aucune raison de stigmatiser, d'isoler le Soudan, la Somalie, le Yémen, la Syrie.
Athanase, on y revient tout de suite. Nous avons un auditeur à Kinshasa, c'est Grégoire qui est déjà en ligne. Bonsoir. Grégoire, voilà votre réaction, Grégoire. Vous avez suivi ce nouveau décret du président américain sur l'immigration.
Oui, mon intervention était claire pour dire que j'étais très content. J'étais très content et même mes entourages ont été très contents. Et la façon dont le numéro 1 des États-Unis d'Amérique a vu les choses.
Concrètement, pourquoi vous avez été content? Quelle est la différence avec le premier décret?
Pardon?
Quelle est la différence avec le premier décret? Vous dites que vous avez été très content avec le décret de ce lundi. Un problème peut-être de connexion téléphonique, mais on va à Bamako. À Bamako, Bakary Keïta, bonsoir.
Ah, bonsoir Eric.
Bonsoir. Votre réaction, Bakary?
Bon, ce nouveau décret, moi, je vois cela sous des angles. D'abord, dans un premier temps, moi, je ne suis pas vraiment content. Parce que pour l'immigration, il ne faudra pas vraiment limiter. Il fallait quand même créer vraiment les moyens pour que les gens puissent vraiment entrer vraiment au pays de l'oncle Sam. Mais d'autre part, moi, je n'en veux pas vraiment à Trump. Par exemple, si vous voyez tous ceux qui arrivent vraiment dans le monde, faute vraiment à des terroristes, à des djihadistes, qui portent vraiment le nom des musulmans. Cela vraiment ternit aussi l'image des musulmans. Et moi, je crois qu'il n'est pas quand même bien vraiment de mettre une barrière quand même pour certains pays quand même d'entrer vraiment aux États-Unis. Il faut essayer de mettre des moyens rigoureux, des moyens idoines pour limiter vraiment l'entrée des terroristes vraiment aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement les musulmans qui sont quand même des terroristes, ils ont des réseaux un peu partout, ils peuvent être même des Américains blancs même.
Mm-hmm. Merci Bakary pour votre contribution. Il y a eu justement cette association des droits civiques ici aux États-Unis, c'est ACLU, qui encore une fois a dénoncé le nouveau décret. Athanase, vous étiez en train de dire que le nouveau décret stigmatise toujours certaines catégories.
Oui, certains peuples, pas seulement certaines catégories, parce que on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que les gens doivent mettre une barrière étanche entre le concept de réfugié et de migrant. Les migrants qui partent pour des raisons économiques, évidemment qu'il faut les limiter, évidemment qu'il faut les réguler, évidemment qu'il faut inciter les Africains à rester chez eux et à travailler chez eux et à développer leur pays et à garder la jeunesse. Mais les réfugiés, quand il y a une situation dramatique de guerre, tout le monde doit se mobiliser pour les accueillir, pour les conforter. C'est un devoir d'humanité, c'est la moindre des choses. Mais le plus grave, et je pense que la justice américaine va reprendre même le deuxième décret sur un point très précis, c'est un point de morale, c'est un point de droit aussi. On ne peut pas stigmatiser les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont fait. Et vous ne pouvez pas dire que tous les Soudanais sont potentiellement terroristes, vous ne pouvez pas dire que tous les Somaliens sont potentiellement terroristes. Tous les Syriens, tous les Irakiens, c'est inadmissible. Cette stigmatisation des gens pour ce qu'ils sont rappelle la définition du génocide, c'est-à-dire des gens qui sont tués pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que le deuxième décret ne lève pas du tout l'hypothèque de ce problème de droit et de ce problème de morale. On ne stigmatise pas les gens pour ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils ont fait.
Nous avons encore Grégoire en ligne. Grégoire, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Justement, vous alliez dire pourquoi vous êtes satisfait du décret de ce lundi.
Oui, si j'ai intervenu à ce décret, j'étais très content. Alors, c'est une façon aussi de favoriser les jeunes qui veulent quand même servir l'humanité, d'adhérer de se déplacer. Mais bon, je parle, il y a des étudiants, il y a ceux-là qui ont été terminés, qui voulaient quand même travailler ailleurs, étudier, et alors ils peuvent profiter de cette opportunité d'aller aussi de l'avant et chercher aussi à servir l'humanité d'une manière utile, de la manière dont on va vivre.
Merci Grégoire pour votre contribution. Nous allons au Maroc pour retrouver Mamoudou. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Mamoudou, je ne sais pas si il peut nous entendre. Mamoudou, vous êtes là? Il y a un problème avec Mamoudou. On va essayer de le retrouver tout à l'heure. Athanase, il y a ce problème de sécurité. Le président, il doit veiller à ce que son pays, à ce que la sécurité soit garantie. Comment concilier justement cette question de sécurité, cette question de gestion de l'afflux des immigrants ou des réfugiés?
N'importe quel président de n'importe quel pays a le devoir d'assurer la sécurité des citoyens. Il est responsable de ça et personne ne peut lui en vouloir de vouloir protéger les Américains contre la terreur, la violence. Mais le problème qui surgit tout de suite, c'est qui sont les auteurs potentiels de cette violence, de ce terrorisme. Ce ne sont pas des peuples, ce sont des individus, ce sont des terroristes individuels. C'est une responsabilité individuelle. Et ces terroristes peuvent être américains, français, chinois, sud-africains, burundais. On ne s'en prend pas à tous les Burundais, on ne s'en prend pas à tous les Chinois ou à tous les Français. C'est la question de base, c'est que bien entendu, il faut se protéger, il faut protéger les pays contre le terrorisme. Mais la meilleure façon, c'est d'abord de coopérer, d'organiser une coopération internationale pour créer des conditions d'échange de l'information, de lutte contre l'extrémisme, mais contre des individus et non pas contre des peuples, contre des pays. Et c'est, encore une fois, c'est un problème de droit et de morale. Il faut s'en prendre aux gens, non pour ce qu'ils ont fait et non pas ce qu'ils sont. Et le président Trump ne peut pas confondre les deux aspects.
Nous recevons Diarra Kanyoumé à Bamako. Diarra, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les résidents de VOA Afrique.
Vous avez la parole.
Ok, merci de me donner la parole. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, la campagne de Donald Trump, il est en train de parler beaucoup de choses, donc il est venu, il est en train d'appliquer maintenant. Et première parole, c'était interdiction de rentrer le pays musulman dans leur pays en Amérique aujourd'hui. Il a quitté dans ses lois, il est venu dans le degré. Donc, à mon avis, je pense que si M. Donald Trump aussi va diminuer un peu loi à mesure qu'il est en train de faire, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'Africains aujourd'hui. Il faut imaginer il y a au moins 11 000 migrants dans leur pays en Amérique. C'est les étrangers qui dominent en Amérique aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses, même au travail. Il faut imaginer il y a combien de migrants qui nourrissent et leurs familles dans les pays africains aujourd'hui. C'est beaucoup. Donc s'il a dit qu'il va chercher plus pour venir dans leur pays, donc à mon avis, je pense que ça va créer beaucoup de situations dans les pays voisins. Imaginez aussi, même si tu as pris d'origine de Donald Trump, donc c'est un migrant en Amérique aujourd'hui, donc je pense qu'il doit changer un peu pour ce côté.
Merci Diarra pour
Allô?
Votre... Allô, Diarra? Diarra, oui.
Oui,
on vous a suivi. Donc, on vous a suivi.
Voilà, je vais poser une question à notre professeur aussi.
Allez-y.
Ok, monsieur le professeur, bonsoir. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer ce que Donald Trump est en train de penser. Je pense qu'il y a beaucoup de terroristes aussi qui créent leur base en Amérique. Ce n'est pas le pays africain qui est en train de créer les terroristes aujourd'hui. Les terroristes ça quitte en Amérique parce que l'Afrique n'a pas de moyens pour fabriquer des armes. Mais il faut imaginer les bombes atomiques aujourd'hui avec les grenades et tout ça quitte dans l'Amérique. Donc l'Amérique qui crée beaucoup de choses, sinon ce n'est pas les Africains qui sont en train de créer les terroristes.
En attendant que Athanase réponde à votre question, Diarra, restez en ligne et nous recevons un auditeur qui est en Afrique du Sud. Bonsoir, Morrison.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.
Votre réaction?
Bon, le problème, c'est que l'immigration, la décision de M. Trump n'est pas vraiment une bête décision, hein, à quelque part. L'Amérique est construite par les immigrants. Quand on parle aujourd'hui de l'Amérique, c'est grâce aux immigrants qui sont en Amérique. Parce que sans les immigrants, l'Amérique n'allait pas être ce qu'on appelle aujourd'hui Amérique.
Mmh.
Mais, je pense que vous m'avez bien capturé.
Oui, mais pour vous, il y a ce problème de sécurité qu'il faut gérer, il faut préserver la sécurité. Comment, par exemple, quelle serait votre approche?
Réserver la sécurité. Vous savez, quand on parle d'un développement d'un pays, il y a beaucoup de cas qui se créent. La population devient majeure. La population est en nombre à quasi-totalité. Vous savez, quand la population est nombreuse, l'insécurité aussi devient aussi nombreuse. Ça, c'est le premier cas. Et puis, la sécurité, c'est la personne lui-même qui peut assumer sa sécurité. La sécurité de l'Amérique, ce sont les Américains qui vont assumer leur sécurité et assumer la sécurité de quoi de l'Amérique déjà.
Merci, Morrison, pour votre contribution. On donne l'occasion à Athanase pour répondre à la question de Diarra. Athanase, vous l'avez gardé?
Oui, si j'ai bien compris la question, il la pose plutôt pour montrer la faiblesse du continent africain qui est incapable de produire des bombes atomiques, de se protéger, de créer des conditions de puissance. Si j'ai bien compris, c'est ça.
Diarra?
Oui.
Voudriez-vous confirmer?
Oui,
voudriez-vous confirmer, c'est ça votre question?
Alors, de mon point de vue...
À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas trop de moyens pour fabriquer certains trucs. Tout ça qui était en Amérique. Donc, à mon avis, il ne faut pas que les choses vont rentrer en Afrique aujourd'hui en désordre. Sinon, c'est en train de créer beaucoup de problèmes chez nous-mêmes. Même, il faut imaginer au nord du Mali, à chaque jour, il y a beaucoup d'explosions dans les sables aujourd'hui. Donc, je pense que même l'Amérique doit prendre les mesures de ça.
Athanase, rapidement, avant de recevoir Al-Hadji à N'Djamena.
Oui, je pense que la protection de la paix mondiale, ce n'est pas avec des guerres, plutôt avec des armes de guerre, avec des bombes atomiques, qu'on y arrivera seulement, et même pas du tout d'ailleurs, parce que je crois que c'est beaucoup mieux d'imaginer une société, des sociétés ouvertes, des sociétés qui dialoguent, des sociétés qui créent des conditions de confiance entre les peuples, et pas enfermer les gens dans des sortes d'identités fermées et haineuses ou hostiles les uns aux autres. C'est le dialogue, c'est l'ouverture, c'est la compréhension mutuelle. C'est ça qui peut créer des conditions de paix. Ce ne sont pas les bombes atomiques qui vont nous protéger, ni en Afrique, ni en Europe, ni les États-Unis. Il faut mettre la paix au niveau de l'agenda mondial. Et la paix est une condition préalable pour que tout le monde vive bien, mais la paix aussi, c'est une condition pour que les gens puissent circuler, se faire confiance, faire du commerce, aller faire des études, des Américains venir en Afrique, des Japonais venir en Afrique, des Chinois venir en Afrique. Ce brassage mondial est absolument fécond et absolument souhaitable, mais il ne faut pas penser que ce sont des guerres, des bombes ou des militaires qui vont créer des conditions de paix dans le monde.
On va recevoir El Hadji Ndjamena. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Vous avez la parole, El Hadji.
Bon, M. Trump, Amel vient le jour de prendre cette décision à la liberté. Car déjà, c'est un mal vraiment de monde que nous voulons faire. Donc, je ne vois pas. Allô?
On vous entend, oui.
Oui. Allô?
Je vous écoute.
Oui, comme je l'avais annoncé tantôt, M. Trump avait raison de venir de prendre cette décision à l'égard de cette île. Car c'est rien qui met en mal le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, je ne vois pas vraiment la raison de voir qu'il y a des points par exemple. Car il a fait son travail à tant que.
Merci, Hadji, pour votre contribution malgré le problème téléphonique. Maria Kul dit « Monsieur Donald Trump oublie que nul ne peut progresser sans l'autre. Si aujourd'hui l'Amérique est devenue une grande puissance mondiale, c'est grâce au soutien étranger. Je propose que chaque dirigeant prenne son pays en compte, que tous les pays... le reste des autres pays puissent s'unir et couper toute relation avec Trump et son gouvernement. Comme cela, il saura que l'enfer, c'est l'absence des autres. Avant de donner l'occasion à Athanase pour commenter son point de vue, je vais à Lomé pour parler à Djivo. Djivo, bonsoir.
Djivo, bonsoir.
Votre réaction, Djivo.
Oui, Donald Trump, je vois que M. le président américain, Donald Trump, était clair. Il disait qu'il faut que chacun se rende dans son pays pour développer son pays. Et moi, je vois qu'il est clair et ce qu'il a dit, il n'a pas du tout mal dans ce qu'il est en train de faire.
Merci Djivo, c'est très clair. Il y a aussi Keita Daouda qui dit « La politique d'immigration de Donald Trump est inadmissible, en ce sens que les États-Unis est un pays d'ouverture depuis des siècles et que des étrangers ont contribué à l'essor économique du pays. Cette politique d'immigration prônée par M. Trump va à l'encontre des droits de l'homme. » Athanase, une réaction ?
Écoutez, je crois qu'il faut qu'on revienne tout de même à l'histoire des États-Unis. Les États-Unis ont été créés par des migrants qui étaient persécutés en Europe, qui subissaient l'intolérance religieuse et qui ont découvert l'Amérique et qui sont installés, qui ont, au passage, il faut quand même le rappeler, les États-Unis, plutôt les Européens qui sont arrivés aux États-Unis, ont organisé un génocide absolument épouvantable contre les populations locales, les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens. Et aujourd'hui, les descendants de ces immigrations successives sont en train d'affirmer qu'ils ont un droit absolu sur leur terre, mais qui est une terre volée. C'est une terre qui a été acquise et conquise par la violence, par le fait d'avoir décimé les Indiens. L'Amérique aussi a été nourrie par l'esclavage des Africains qui sont venus du continent. L'Amérique, plus que tout autre pays, devrait être effectivement plus compréhensive, plus... Mais pour autant, l'Amérique ne peut pas être ouverte au monde entier sans limite, sans régulation et sans sans mettre des règles extrêmement précises comme n'importe quel pays. Même si cette histoire est lourde, même si cette histoire est tragique, maintenant les Américains ont le droit aussi de dire nous pouvons accueillir des milliers de gens par an, mais pas des millions. Et c'est tout à fait leur droit et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de mélanger la migration et l'immigration économique ou scientifique ou familiale, peu importe, et la question des réfugiés. Les réfugiés, il faut toujours mettre cette question à part. C'est une question humaine, c'est une question qui nous oblige tous. Les réfugiés exigent d'abord du respect, bien entendu, mais aussi, surtout, de l'aide inconditionnelle.
Athanase, nous recevons Étienne qui est à Kigali. Très rapidement, Étienne, je vais vous accorder 20 secondes parce qu'on est à moins d'une minute de la fin de l'émission. Étienne,
oui.
Votre réaction en 20 secondes.
C'est très complexe. Je crois que le président des États-Unis a exagéré.
Athanase, oui, Athanase, 10 secondes pour clore cette émission.
Non, pour clore, encore une fois, il faut en appeler plutôt à la compréhension, au respect, à la paix et surtout éviter la stigmatisation.
Merci Athanase. Merci à Georges et Léonard Sagnon qui assurent la mise en onde à la console Robert Wagner. Merci Eric Manirakis, à vous. Rencontre à la prochaine. Au revoir.